bouche ta bière de micro, tu l'aimes local? Ben, c'est comme ta radio. Des animateurs qui se retrouvent sur les mêmes terrains de soccer que toi pis tes kids, qui vont au même dépanneur, qui vont voir les mêmes shows pis qui restent pognés dans le même trafic que toi. Boulevard 102.1 Québec, c'est chez nous.
Boulevard 102.1.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Bonsoir, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Encore une fois, ce soir, un invité incroyable, mais d'abord, les femmes d'abord. Ma co-animatrice du midi qui a décidé de m'accompagner tout au long de la soirée entre 18h et 19h pour jaser de psychologie. Salut Pascal Cévé.
Ah, je pensais que c'était moi l'invité de haut calibre et tout ça. Non.
Oui, ça peut être toi, parce que les gens t'apprécient. Est-ce que t'es de haut calibre? Ben oui, on peut considérer ça. Là.
Quand tu m'apprécies une journée, ça va être oui. Quand c'est plus tough, ça va être non. Hey, merci de m'accueillir.
Ça fait plaisir. Notre invité ce soir, Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. Salut Joël.
Salut!
Merci d'être là. Je sais que dans quelques semaines, tu seras à Québec. J'espère que tu vas venir en studio pour nous jaser sur l'heure du midi. Pour les gens qui connaissent Joël Monzé, bon, il n'y a pas de surprise, c'est quoi un docteur en neurosciences, mais est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi un docteur en neurosciences pour les gens qui prennent l'émission pour la première fois avec toi?
En fait, quand on étudie à l'université, il y a trois grands niveaux. Il y a le baccalauréat, qui est le premier cycle, puis la maîtrise, puis le doctorat. Donc, ça veut dire que j'ai appris à être un bon chercheur. En tout cas, j'espère. Si j'ai été diplômé, normalement, ça devrait l'être. Et donc, c'est ça. Ce que je fais, en fait, ou ce que j'ai fait pendant des années, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et en l'occurrence, moi, mes champs d'intérêt, c'est d'essayer de faire des liens entre toute la psychologie et la pédagogie, donc la manière dont les enfants fonctionnent, les adolescents fonctionnent, les adultes fonctionnent, en lien éventuellement avec les différents apprentissages et tous les enjeux de la régulation émotionnelle, du développement des habiletés sociales, le développement de l'éthique aussi, de la morale. Donc, c'est, en gros, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui étudient les neurosciences pour améliorer les techniques d'intervention en ergothérapie, en physiothérapie. Il y en a d'autres qui font de l'intelligence artificielle parce que bien souvent, en IA, on regarde comment fonctionne le cerveau puis on essaie de reproduire ça avec des composés, électroniques. Donc, il y a différents champs. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que Québec, la province du Québec est un des trois centres au monde le plus intéressant en neurosciences. En termes, nous avons probablement la plus grande concentration de neuroscientifiques dans le monde entier. Alors, on ne bat pas les Américains en fonction du financement des recherches. Ça, ce serait impossible, malheureusement, à atteindre les standards qu'ils ont mis en place. Mais on a une concentration de neuroscientifiques au Québec, surtout à Montréal, qui est incroyable.
Tu fais des interventions dans les médias, tu donnes énormément de conférences, tu fais de la formation aussi, mais tu as écrit plusieurs livres. Bon, il y a des livres qui sont pour les adultes, là, mais il y a des livres aussi qui sont pour les adultes, mais qui ont à éduquer les enfants ou qui sont en contact avec les enfants. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours été prêt, justement, de l'éducation aux enfants? C'est-tu quelque chose qui manquait à tes yeux quand tu as décidé d'écrire les livres sur ce sujet-là?
Mais je pense que beaucoup de gens, quand ils voient les comportements des enfants ou des adolescents, ils se sentent démunis, ils essayent de les aider du mieux qu'ils peuvent, mais on oublie bien souvent qu'en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenant, l'enfant ou l'adolescent, ses comportements, c'est un langage à proprement parler, et il va essayer d'exprimer souvent maladroitement ce qui ne va pas bien. Et si nous, on a l'impression que c'est seulement l'enfant ou l'adolescent qui est porteur du problème, on va essayer d'utiliser des techniques cognitivo-comportementales et on va essayer de le normaliser, soit avec des mesures de mesures disciplinaires potentiellement abusives, soit éventuellement avec de la médication et autres, alors qu'on devrait prendre le temps d'essayer de comprendre pourquoi le jeune se comporte de cette manière-là et comment est-ce qu'on peut l'aider, en fait, à s'exprimer autrement, c'est-à-dire de s'exprimer dans une manière qui va faire en sorte que socialement, c'est accepté. Mais nous-mêmes, comme adultes, on a de la misère à gérer nos émotions, on a de la misère à gérer nos comportements. Donc, parfois, on demande trop aux jeunes et il ne s'agit pas, en fait, de les considérer, de les infantiliser, de les considérer comme des êtres qui n'ont aucune compétence, mais c'est de regarder comment s'appuyer sur leurs compétences pour qu'ils développent de meilleures compétences plus socialement accepté.
On commence à en parler de plus en plus parce qu'on se rend compte que dans l'enfance, finalement, c'est un tournant extrêmement important sur l'adulte de demain, soit l'individu en soi, tout ce qui est niveau criminel, tout ce qui est niveau social, tout ce qui est niveau compréhension d'une foule aussi à travers tout ça. L'enfance est déterminante. C'est juste un terme qui est super à la mode en ce moment parce qu'on en donne bon, plus de place dans les médias et autres. La personne qui est pervers narcissique, on les crée, ces gens-là, à la base, par toutes sortes de petites choses dans l'environnement d'un enfant qui va avoir fait en sorte de bâtir ces comportements-là. Ils naissent pas comme ça, mais est-ce que justement on est assez conscient dans la société actuelle des comportements importants à prendre en charge chez l'enfant ou encore à voir que ça arrive ou pour mener à une meilleure société par la suite?
Mais j'aurais envie de dire, c'est que il y a un clash actuellement parce que le degré de connaissance qu'on a acquise ces 20 dernières années en neurosciences nous montre justement à quel point, Pascal, tout ce qu'on fait ou on ne fait pas quand l'enfant est petit ou quand on est face à un adolescent, c'est le moment où, en fait, où le cerveau se développe le plus, c'est le moment où il crée le plus de synapses, c'est-à-dire les contacts entre les neurones. Donc, ça permet le développement du potentiel du jeune. Tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on ne fait pas, ça a une incidence. Tu parlais tantôt des troubles de la personnalité. Un trouble de la personnalité, c'est des maladies psychologiques qu'on observe à l'âge adulte, mais c'est des comportements normaux quand on est enfant et quand on est adolescent. Mais si on ne met pas l'enfant ou l'adolescent dans un environnement adéquat, eh bien, il va figer ses réactions de petit garçon, de petite fille ou d'adolescent, d'adolescente qu'il reproduit à l'âge adulte. Et là, ça pose problème parce que normalement, à l'âge adulte, on devrait avoir d'autres ressources pour faire en sorte qu'on soit capable justement de fonctionner en société. Donc, quelque part, c'est important. Mais j'ai envie de te dire, même plus loin, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la plupart des traumas qu'on développe au niveau psychologique parce que les adultes ne font pas attention à ce que vit l'enfant ou de ce que vit l'adolescent. Donc, on appelle ça des traumas complexes. Donc, c'est une configuration dans le cerveau où le jeune est mis dans une situation où il essaie de survivre tant bien que mal. Eh bien, on sait que c'est probablement le plus gros déterminant des maladies chroniques, les maladies physiques chroniques à l'âge adulte. Donc, de tenir compte justement des besoins d'un point de vue affectif et social et cognitif de l'enfant ou de l'adolescent permet en fait de réduire le risque qu'ils tombent plus ou moins gravement malades quand ils seront adultes. Et la santé publique américaine fait un travail depuis quelques années extraordinaire justement pour colliger toutes les données. Et heureusement, la santé publique au Québec s'y intéresse de plus en plus.
Quand j'étais jeune, Joël, j'étais élevé par des gens qui étaient un peu plus vieux que, mettons, lorsque j'étais jeune, j'avais 3-4 ans, les gens qui m'entouraient étaient déjà autour de 45-50 ans, donc d'une autre époque. Puis c'est eux qui m'apprenaient les valeurs de la vie, puis comment c'était un gars, puis comment c'était une fille. Puis on a été élevés, nous autres, comme étant des gens qui devaient jamais abandonner. Jamais, jamais. Mm-hmm. Tu dois toujours travailler fort, t'abandonnes jamais. Ce qui fait en sorte qu'à certains moments de ma vie, je continuais malgré le fait que ça menait absolument à rien. Puis cette qualité-là qu'on tentait de m'inculquer puis qu'on a réussi à m'inculquer, c'est-à-dire de jamais abandonner, plus tard, ça paraissait, à l'âge adulte, comme étant de l'acharnement.
Puis t'avais comme le défaut de ta qualité dans
exact.
Ceci.
Mm-hmm. À un moment donné, je me suis rendu compte de ça puis je me suis dit, OK, on va laisser tomber les choses sur lesquelles on ne peut plus avoir d'impact puis on va se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut avoir de l'impact. Mais cette qualité-là qu'on avait, qu'on m'a inculquée, c'est devenu une problématique. Puis j'ai revu un peu la même affaire avec Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui l'a mentionné souvent dans son texte, autant en français qu'en anglais. « Je suis un combattant, je suis un combattant, j'abandonne pas, je lâcherai pas, je lâcherai pas
les ponts. » C'est pour ça que j'ai pas quitté mon poste.
Mais est-ce que c'est d'être combattant ou dans son cas à lui, est-ce que c'est de l'acharnement? À mes yeux, à moi, c'est de l'acharnement, puis c'est le sujet de la soirée.
Oui, mais j'aurais envie de revenir sur ce que tu disais juste avant. Je crois que quand on est jeune, on manque de recul et d'expérience, ce qui fait qu'on ne se voit pas toujours aller. Il ne faut pas oublier que notre cerveau va atteindre sa pleine maturité seulement quand 40 et 45 ans. Donc, on croit souvent que c'est vers aux alentours de 25 ans que qu'on atteint la pleine maturité, mais avec les études qu'on connaît aujourd'hui en neurosciences, on voit en fait que les zones les plus importantes pour développer l'éthique et la démarche réflexive, c'est-à-dire la capacité de se voir aller et de se réorienter si justement il y a des échecs, ouais. Eh bien, c'est quelque chose qui va apparaître beaucoup plus tard. C'est souvent dans la trentaine, voire au-delà de 35 ans, 40 ans, que ces aptitudes-là vont être disponibles. Alors, c'est certain que si je fais le pont avec la déclaration de M. Trudeau, puis on s'entend, je ne fais pas de diagnostic ici, on parle de dynamique personnelle.
On fait de la réflexion, oui.
On fait de la réflexion, d'accord, mais on pourrait imaginer que oui, normalement, un chef d'État, surtout au-delà de la quarantaine, devrait avoir acquis suffisamment de recul sur ce qu'il fait ou ne fait pas, ce qu'il fait de bien ou ne fait pas de bien, de se remettre en question, de se remettre en perspective. Mais on a tous des enjeux parce que d'occuper un poste comme celui-là, ben, il y a des avantages qui sont là, des avantages personnels, des avantages pécuniaires, des avantages de pouvoir, des avantages de... on pourrait, tu sais, il y a au moins 4-5 types de dynamiques comportementales qu'on pourra observer dans ce genre de poste-là. Et puis, ça touche toutes les personnalités qui ont du pouvoir. Donc, on va retrouver ça dans les grandes sociétés, dans l'industrie, on va retrouver ça dans les médias, on va retrouver ça éventuellement dans le sport, où les athlètes sont admirés, donc ils ne veulent pas perdre justement ce côté d'admiration que le public a leur voue. Donc,
la définition de soi, on entend souvent, mettons, un politicien, s'il a fait de la politique pendant une majorité de sa vie, ben, ça va être dur d'arrêter, même si c'est le moment d'arrêter puis tout le monde le réclame, parce qu'il se définit comme ça, un peu comme un athlète professionnel. Quand ça arrête, s'il n'y avait rien autour, le meilleur exemple, je pense, c'est Laurent Duvernay-Tardy, tu sais, footballeur et tout ça, à un moment donné, il a arrêté, mais il a pris plein de projets entrepreneuriaux autour de lui et tout, parce que ben, il a continué d'avoir une définition de soi, mais pour beaucoup, là, c'est de la dépression, c'est si c'est ça après. Mais Yannick, ça veut dire que toi, à ton âge, tu as atteint le summum de ce que tu pouvais développer. Fait que si on souhaitait plus, il faut arrêter d'y croire. Mais en même temps, j'ai pas envie, moi, qu'on dise ça seulement en ondes ce soir, parce que je me dis, il y a du monde qui vont dire, ouais, mais moi, je rendu assez vieux, je changerai pas, je suis de même.
Non, mais on peut toujours changer, puis peut-être que Joël pourra ajouter à ce que je mentionne. Mis à part mon linge, je vois pas vraiment d'acharnement aujourd'hui chez moi. Là, je me suis grandement amélioré, mais mon linge est problématique. Mais
aujourd'hui,
dans mon
c'était
cas.
Une bonne journée pour toi.
Ne jamais abandonner un morceau de linge, même après 20 ans. Mais tu sais, on le voit dans, comme tu l'as dit, Joël, chez les athlètes sportifs. Moi, j'avais une ancienne collègue, j'ai une ancienne collègue qui s'appelle Martine Albert. Martine Albert, j'ai eu la chance de travailler avec elle pendant des années et des années. Ça a été une athlète olympique. De mémoire, tu pourrais peut-être chercher Pascal, c'était le biathlon qu'elle faisait. Puis elle était aux Olympiques. Elle était suivie de A jusqu'à Z, sa routine, ce qu'elle mangeait, la façon dont elle s'entraînait, les timings qu'elle faisait. Puis elle, ce qu'elle me racontait, c'est que le jour où les lumières se sont éteintes, le jour où la retraite avait sonné, puis qu'il n'y avait plus personne le lundi suivant pour s'occuper d'elle, puis gérer un peu sa vie, ça a été une catastrophe pour elle. Elle avait l'impression qu'elle n'était plus la personne qu'elle était le vendredi d'avant.
Elle se présentait toujours comme étant athlète. C'est quoi son nom de famille?
Martine Albert.
Albert, tu sais, elle se présentait sûrement toujours comme étant une athlète. Toute sa vie a été
ouais.
dans le sens de... performer
c'est ça.
Comme athlète.
Exact.
C'est tough, là.
Mais c'est ça. Puis le lundi, ben, une fois que les lumières se sont... c'est ça, Martine
biathlète,
Albert,
ouais.
c'est biathlète. Le lundi, quand il n'y avait plus personne autour
j'imagine.
D'elle, elle n'était pas capable de se définir en tant qu'individu parce qu'elle avait toujours été ouais. une athlète olympique.
Ouais. Ouais.
Mm-hmm. Ça fait mal à l'ego,
oui.
ça.
Oui, puis tantôt, vous citiez Laurent Duvernay-Tardif, mais lui, il a fait médecine en parallèle mm-hmm. avec sa carrière de footballeur. Donc, il y avait d'autres enjeux. Et malgré le fait qu'il avait gagné le Super Bowl juste avant la pandémie, il a décidé de mettre un terme, ou tout au moins de mettre sa carrière sur pause pour venir aider dans les hôpitaux. Donc, ça voulait dire que ce gars-là ne se définissait pas uniquement comme un athlète de très haut calibre. Et je me souviens, quand j'ai fait ma maîtrise à Sherbrooke, j'étais dans une faculté d'éducation physique. Je faisais des neurosciences, mais c'était un laboratoire qui s'intéressait aux aspects du corps en mouvement. Mais si je reviens à ce que je disais, c'est qu'on parlait justement de du risque de certains athlètes de mettre fin à leur jour une fois que leur carrière est terminée. Parce qu'en fait, quand tu maintiens une très haute, un entraînement continuel, tu as toute une série d'hormones qui vont être libérées, tu as des neurotransmetteurs qui vont amener un certain équilibre mental. En fait, il faut les espérer, mais tu peux tomber dans le surentraînement, tu peux tomber dans le mépris d'autrui. On l'a vu d'ailleurs avec un athlète français qui refusait de faire des autographes pour des petits-enfants qui étaient à côté de lui, qui l'admiraient. Quand il regardait en fait les jeunes enfants, il y avait un mépris dans son regard qui était phénoménal, tu sais, parce qu'il est peut-être trop, trop admiré, donc trop narcissique à ce moment-là. Puis il y a tous ceux qui vont tomber dans le dopage. Et au moment où leur carrière s'arrête, c'est que comme tout ça, ça les amène beaucoup dans leur système sympathique, qui les propulse, qui leur permet de combattre, qui les permet de fonctionner, de franchir des sommets en termes de performance qu'on ne peut pas imaginer. Et le jour où il n'y a plus ça, on tombe dans le système parasympathique. Et là, c'est un effondrement complet de la personne parce qu'il n'y a plus ce thrill-là, il n'y a plus ce bien-être dû à la dopamine qui est hyper libéré. Et donc, la personne tombe en dépression profonde. Et si elle n'a pas eu autre chose, et si elle n'a pas préparé, en fait, la transition entre sa carrière sportive et la post-carrière sportive, malheureusement, certaines personnes peuvent poser des gestes qui seront bien malheureux.
Est-ce qu'il se pourrait, puis là, comme tu le dis, ce n'est pas un diagnostic que tu fais sur Justin Trudeau, mais on y va avec des hypothèses. Est-ce que le fait que Justin Trudeau aime être admiré, aime être le centre d'attraction, aime avoir des caméras et des micros sous la bouche pour pouvoir exprimer ses pensées puis avoir de l'air du jeune premier, est-ce que ça ferait en sorte que, bon, il a pensé à lui avant de penser au Canada, c'est-à-dire je vais rester là le plus longtemps que je peux?
Je ne sais pas s'il a pensé à lui plus que au reste du Canada. Je pense qu'à un moment donné, quand on est dans des enjeux aussi puissants que d'être un chef d'État, c'est parfois très difficile de prendre assez de recul pour pouvoir analyser ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et je te dirais qu'il y a quatre types de personnalités qu'on peut retrouver, en tout cas de dangers qu'on peut retrouver dans des gens qui sont amenés à avoir autant de pouvoir que ça. Il y a le thrill dont je parlais un peu avec les athlètes, où la personne, en fait, elle est avide de dopamine et ainsi de suite. Puis on peut avoir ça, par exemple, dans les médias. Tu peux avoir quelqu'un qui est souvent mis de l'avant, qui va être admiré, qui va vouloir rester en place qui doit maintenir une performance à haut degré pour éviter de perdre ses codes d'écoute. Je pense que c'est Thierry Ardisson qui parlait justement d'un moment dans sa vie où finalement il prenait de la cocaïne pour être capable de maintenir ce thrill-là. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans jusque-là, mais rien que déjà d'être dans ce thrill-là, ça peut être... Donc, s'il est pris là-dedans, il va automatiquement avoir de la difficulté. Donc, quand je parle d'un homme de pouvoir, il va automatiquement avoir de la difficulté à prendre un tout petit peu de recul parce qu'il y a un état de dépendance par rapport à la libération de dopamine qui est dû à son poste de pouvoir. Et là-dedans, ben, ça fait en sorte qu'il peut avoir des difficultés à arrêter et à se voir aller. Un autre élément qui potentiellement pourrait expliquer une partie des comportements, c'est le sens, c'est pousser le sens humanitaire au maximum, c'est-à-dire de se croire être investi d'une mission, ouais, d'une mission humanitaire. Cette mission-là peut être très, très noble à la base, par exemple, l'ouverture à toutes les spécificités ou toutes les diversités à l'intérieur d'une société, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan du genre et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, tu te sens investi de ça et tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller et tu ne vois que la mission et tu oublies complètement de regarder tous les signes qui sont autour de toi qui disent « Hey, stop, tu vas trop loin, on n'est pas là ».
Mais ça, c'est super intéressant parce qu'en ondes, j'avais dit à Yannick dans notre analyse boboche là, et non professionnelle de ce qui se passait avec Justin Trudeau, je me demande si c'est pas parce que lui se voit comme étant la seule personne bien placée en ce moment face à la crise qu'on connaît au Canada, face à la géopolitique, à Trump qui vient d'arriver, parce qu'il se dit « Moi, ça fait des années que je suis dans les dossiers, probablement que je suis la seule personne qui peut bien les manier en ce moment. » Et de faire en sorte de laisser la place vacante à quelqu'un d'autre, il faudrait qu'il revoie les dossiers de A à Z. Puis même si je les gère plus ou moins bien, ça reste que je suis la meilleure personne en ce moment. Je me suis demandé si c'était ça, si c'est parce que pour lui, la mission était plus importante et pas nécessairement celle d'être sous les micros.
Mais je pense qu'il y a cet aspect d'être sous les micros parce que pour moi, il a poussé à l'extrême, en tout cas à un niveau qu'on ne l'avait jamais vu, le syndrome de JFK, donc John Fitzgerald Kennedy. Pourquoi est-ce que JFK a gagné les élections en 1960? C'est parce qu'il avait compris comment utiliser les médias et il a battu Nixon de cette manière-là. Donc, c'est-à-dire que c'est un beau gosse, jeune quarantaine, passe bien dans les médias et tout ça, alors que Nixon était à des kilomètres de cette personnalité-là. Donc, je pense que Trudeau, boulot a été probablement investi de son métier ou de son œuvre par justement le fait que c'est un beau gars, que certaines personnes aussi étaient tannées de voir Monsieur Harper, et donc oui, il s'est senti à ce moment-là, ben voilà, je suis l'élu, puis je vais aller sauver l'humanité.
Dans le monde entier, tout le monde trippait sur Justin Trudeau. Là, quand il est arrivé dans son premier mandat, je me rappelle, j'étais en voyage en Italie, puis je me suis ramassée dans une pièce, Yannick, avec une table où il y avait plein de monde à travers le monde. J'ai pris mon cellulaire, je l'ai passé à tout le monde, puis j'ai dit, c'est quoi votre impression de Justin Trudeau? Et tout ce qui ressortait, c'était son image. Aucun contenu, là. Uh-huh. Puis on nous disait, vous êtes donc bien chanceux, tout ça. Là, je pense que ça serait un petit peu différent maintenant, mais ça donne un peu de jus à ce qu'on est en train de discuter aussi. Là.
Ben, c'est la raison pour laquelle les politiciens ont leur face sur des pancartes, là. T'sais, puis c'est la raison pour laquelle certains politiciens vont se faire élire. C'est des mauvaises raisons, là. T'sais, tu peux pas voter pour une politicienne ou pour un politicien de par sa beauté, là. Ça n'aurait pas de bon sens comme critère de sélection pour mettre en place un député de la place, que ce soit provincial ou fédéral.
Mais je pense que nous, en tant qu'électorat, il faut aussi se questionner sur pourquoi on a coché cette personne, la petite case de cette personne-là, parce que j'ai l'impression que Jack Layton avait donc bien l'air attachant. Il y a des gens qui votaient pour lui, on en a reparlé cette semaine. Justin Trudeau, beau gosse, il y a beaucoup de candidats, spectacles, candidats de superficialité. Il y en a qui vont faire très bien la job, mais nous aussi, il faut se regarder parce qu'on aime ça le charisme, on aime ça le charme. On est beaucoup plus attiré envers une personne qui a l'air, attirante. Et là, je parle pas au niveau relationnel, mais attirante, malgré tout, dans la foule. Cette personne-là qui est good-looking, tu vas la regarder en premier, tu vas la voir en premier.
Joël, j'ai un bagage de préjugés. J'ai mon petit bagage de préjugés ici. Je vais en sortir un. Est-ce que c'est plus les filles qui ont ce critère-là que les gars?
Oui. Mais peut-être que les filles vis-à-vis d'un gars, mais je pense qu'on est tout aussi à risque comme homme vis-à-vis d'une femme. Est-ce qu'on va choisir Chrystia Freeland ou Mélanie Joly?
Hey, fais selon pas ce face-là, Yannick, ça c'est
selon,
sûr.
Selon notre critère de beauté, c'est là. Mais j'aurais envie de dire, écoute, parfois on met les médecins dans des situations, dans leur formation, face à une dame qui n'est pas très jolie ou une dame qui est très jolie, laquelle est-ce que vous allez essayer de sauver en premier? Le réflexe naturel, c'est de choisir le critère de beauté. Puis il ne faut pas nécessairement se moquer de ça, c'est normal, nous sommes des animaux. On est peut-être des animaux dits supérieurs, parfois j'en doute, mais ça reste qu'on est des animaux et veut pas, le boc dans le bois, ben, il va essayer de se trouver les plus belles femelles et les femelles vont essayer de se trouver le plus beau boc, le plus fort, le plus courageux, le plus tough. Et donc les critères de beauté ou les critères de force, les critères de pouvoir vont nous amener en fait, à prendre une décision à un moment donné quand on doit adhérer à quelque chose ou qu'on doit refuser à quelque chose. Ça prend de nouveau du recul, ça prend de la réflexion, ça prend l'analyse. OK, le discours de cette personne-là, est-ce que ça a du sens, ça n'a pas de sens? Est-ce que j'aime ça ou je n'aime pas ça? En quoi est-ce que ça parle de moi ou ça ne parle pas de moi? Donc, ça demande de prendre du recul, mais le critère de beauté va toujours agir d'une manière ou d'une autre.
Mais c'est la même chose pour des relations d'affaires, j'imagine. Quand on se présente dans un 5 à 7 et on est bien accompagné, quand on est un homme d'affaires, on a peut-être plus de chances de faire d'autres rencontres d'affaires parce que des gens vont venir s'intéresser à qui est cette dame-là.
Pas juste ça. Toi, si tu veux closer des deals, tu vas faire un effort sur ton habit, tu vas faire un effort sur ta prestance, ta prestation aussi.
Oui, puis ça peut être jusqu'à engager une jeune femme pour pouvoir qui est jolie à regarder, pour être accompagnée lors d'un souper, pour favoriser l'adhésion du partenaire potentiel à embarquer dans le projet que la personne veut amener.
Ça s'est déjà fait, ça. Il y a des gens qui utilisent des conjointes, conjoints ou des amis pour paraître peut-être mieux en société.
T'es sûr, c'est une question ou c'est une affirmation,
ça? J'ai jamais pensé à ça.
Oh, Yannick!
En tout cas,
moi, je travaille avec toi pour être vu.
Je t'ai jamais invité, Pascal!
Non, mais moi, je travaille avec toi, tu comprends, pour être vu. Parce que je sais que les femmes trippent sur toi, fait que là, il y a une chance qu'ils m'écoutent.
Mm-hmm. Mais je pense que c'est naturel de nouveau.
Ouais. Oh, ouais.
L'idée, c'est de ne pas démoniser... Sans Joël. C'est de ne pas démoniser le comportement, mais c'est d'être conscient de ce comportement-là pour essayer d'éviter de tomber dans les différents pièges. Parce que ces pièges-là, ils existent dans toutes les carrières, y compris pour un... Écoute, quand un comique monte sur une scène, il a envie d'être aimé. Quand un acteur fait participe à une pièce de théâtre ou fait du cinéma, c'est parce qu'il a envie d'être reconnu, d'être adulé, d'être apprécié. Et c'est certain que c'est plus facile de faire du cinéma avec une belle gueule qu'avec un visage qui est plus... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un talent chez la personne qui est belle à regarder. Ça veut juste dire que la personne qui a peut-être plus de... qui est peut-être née avec un visage un peu moins... un peu moins archange, pourrait à ce moment-là avoir peut-être d'aller chercher beaucoup plus de talent pour être capable de percer de la même manière que quelqu'un, qu'un George Clooney, par exemple.
Ouais, ça, c'est prouvé. Hein, on a beau s'opposer à ça ou autre, mais les belles personnes réussissent plus depuis toujours dans la vie.
Mais pour une personne qui est narcissique, Joël, qui tombe dans le merveilleux monde du sport d'excellence, là, je ne sais pas, que ce soit un joueur de football professionnel, hockey, golf et tout ça, ou qu'il soit dans l'univers des médias ou le monde des affaires.
Ou la politique.
C'est une combinaison politique. C'est une combinaison épouvantable. C'est un narcissique qui est dans ces sphères-là de profession. Parce que lui, une fois que les lumières vont s'éteindre, son monde va s'éteindre.
Mais si c'est une personnalité narcissique malsaine, oui, parce qu'il n'acceptera pas que les lumières s'éteignent. Donc, c'est pas parce qu'on a envie d'être aimé ou d'être admiré par autrui qu'on représente nécessairement, quel que soit le métier qu'on fasse, qu'on représente nécessairement un danger. C'est quels sont les comportements qu'on va avoir quand les lumières commencent à se tamiser et quand les lumières commencent en fait à s'éteindre. Et c'est là qu'il y a un risque éventuellement de dérapage. Mais tantôt, on parlait du sens humanitaire. Le sens humanitaire en tant que tel, c'est quelque chose d'extraordinaire, vu que la volonté, c'est de pouvoir essayer de faire le bien sur la planète, mais ça peut tomber dans le fanatisme. Et donc, une personne qui vient avec quelque chose avec une belle valeur peut tomber dans le fanatisme, et certains fanatiques vont jusqu'à tuer autrui pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc, dans tous les comportements, on a un risque. Alors, c'est vrai que le narcissique va être là, on va en parler beaucoup. Bon, il y a beaucoup d'éléments sur un Internet pour pouvoir essayer de repérer les pseudos narcissiques autour de nous.
Mais on a tous des traits narcissiques.
On a tous des traits, c'est normal. Dans le sens que, Pascal, quand tu pars en ondes, il y a la même chose pour toi, Yannick, et la même chose pour moi quand je réponds à vos questions, on a envie de produire un bon show. On a envie d'avoir l'air utile à la société, on a envie d'être apprécié, c'est tout à fait normal. On peut tomber dans un fonctionnement narcissique, et à ce moment-là, ben, on va tout faire pour ne parler que des belles histoires qu'on a envie de mettre, ou on va incarner éventuellement une victime continue. Donc, tu peux avoir des personnalités, parce que souvent, on va prendre le narcissique uniquement dans le côté flamboyant. Or, il y a des narcissiques qui sont des éternelles victimes. C'est-à-dire que c'est cette manière-là, en étant l'image de l'éternelle victime, est une manière de pouvoir recevoir de l'amour du public quand tu es un artiste, est une manière d'éventuellement d'augmenter le nombre de ventes que tu peux faire quand tu es un coach, attirer la compassion de tout le monde autour de soi. Donc, le côté éternelle victime est aussi une image narcissique, et on peut avoir à ce moment-là un trouble de personnalité narcissique où là, on va tout calculer, mais on s'entend que, par exemple, Céline Dion, où tout était calculé, c'est l'image publique de Céline Dion qui était tout calculé. Moi, j'ai eu la chance, en fait, mon ex-conjointe est une amie d'enfance de Céline Dion. Je n'ai jamais rencontré Madame Dion, mais je sais que dans la vie personnelle, Céline Dion est une femme de cœur extraordinaire. Donc, elle est loin d'être une personnalité narcissique, même si son mari contrôlait complètement l'image. Donc là aussi, il faut faire attention entre l'image publique et la personne en tant que telle. Donc, on pourrait avoir des hommes politiques qui sont très pointus sur l'image qu'ils veulent produire au quotidien dans leur dynamique, et la personnalité, l'être humain qu'il est. J'aime par exemple prendre M. Barrett. Je fais attention de ne pas prendre des hommes et des femmes qui sont encore en vie, mais je pense que l'exemple de M. Barrett était assez intéressant. C'est que le syndicaliste, quand il était président de la Fédération des médecins, ou l'homme politique, n'était pas nécessairement quelqu'un avec lequel j'aurais eu le goût de passer du temps avec lui. Ce qu'il dégageait n'était pas nécessairement le genre de personnalité avec lequel j'avais envie d'être en contact. Mais une fois qu'il a arrêté de la politique, j'ai appris toute une série de choses qu'il faisait en tant qu'être humain dans son quartier. Et là, j'ai découvert un homme vraiment attentionné pour les jeunes, engagé, profondément humain. OK, donc, mais ce n'est pas ça l'image politique. On avait l'image d'un bulldozer qui n'écoutait pas, et ainsi de suite. Donc, il faut faire aussi attention C'est là que je fais attention à toutes les pseudo-affirmations sur Internet par rapport à la reconnaissance des gens qui sont narcissiques. C'est que bien souvent, on peut avoir différentes modulations du comportement selon les sphères que l'on a. Par contre, on peut tomber aussi dans le trouble de personnalité narcissique malsain. Et là, ça devient très problématique parce que cette personne-là est prête à nuire aux autres pour être capable de pouvoir maintenir son poste. Et là, on est dans un trouble de personnalité de plus en plus problématique.
Est-ce qu'on est tous à risque, veut, veut pas, d'avoir des enjeux psychologiques dans certaines situations?
On les a tous. Ben, on les a tous.
Prenons toi comme exemple, Joël. Oui? T'as des roches épouvantables médiatiques où tu dois suivre des politiciens, où tu sors un nouveau livre, où tu fais une nouvelle conférence. Puis là, ben, t'as de multiples entrevues à faire chaque jour. Veux, veux pas, ça donne de la dopamine puis de l'adrénaline. Ça doit pas être toujours évident quand le lundi, le téléphone suivant, il est plus là, le téléphone. Et ça appelle plus pour te jaser, pour avoir ton avis. Là. Est-ce que toi, tu le ressens en tant qu'être humain, le besoin de dopamine puis d'adrénaline après tes roches?
Oui, et en fait, ce que moi, je me suis toujours donné comme politique et comme décision, c'est toujours après avoir fait un rush, par exemple, à l'époque où on sortait avec Sébastien Ménard le nombre de jeunes qui étaient sous médication, je pouvais faire des médias pendant 2 à 3 semaines non-stop. Et ça, c'était 1, 2, 3 médias par jour, radio, télé, tout le monde voulait m'interviewer pour pouvoir essayer d'en savoir plus par rapport au Ritalin et tout ça. Et bien, systématiquement, dans les semaines qui suivaient, je renonçais à toutes les entrevues parce que j'étais conscient de ce risque-là et je ne voulais pas tomber dans ce piège-là. Et ceux qui n'ont pas cette, en tant qu'expert, celui qui n'a pas cette discipline-là est à risque, en fait, de peut-être jouer un rôle problématique pour la société. Et je crois que malheureusement, on l'a vu pendant la pandémie, on a vu des experts beaucoup trop souvent en fait, à la radio ou à la télévision. Et parfois, ces personnes-là n'ont peut-être pas nécessairement toujours eu les meilleurs conseils pour l'ensemble de la population. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas pertinents, mais à quel moment est-ce qu'ils n'ont pas essayé de maintenir, en fait, une visibilité dans les médias, peut-être plus problématique qu'autre chose. Puis l'autre chose, c'est comment est-ce que tu te renouvelles aussi. Ouais. Donc, ça amène aussi parfois, puis peut-être que vous deux, vous le vivez de temps en temps aussi, OK, de quel sujet est-ce qu'on va parler aujourd'hui pour maintenir nos codes d'écoute? Est-ce que ceci, ça marche? Est-ce que ceci, ça ne marche pas? Il y a toute une série d'enjeux. Je me souviens, je reprends l'exemple avec Sébastien Ménard à l'époque où il était, où il écrivait, il était journaliste, il écrivait des articles. Quand il sortait des bonnes nouvelles, par exemple, parce que je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, et parfois il y a des choses extraordinaires qui se passent dans les écoles, puis avec l'autorisation des écoles, je disais, est-ce qu'on peut parler de votre beau projet en ondes? Et alors, en fait, Sébastien était d'accord, et donc à ce moment-là, on sortait une bonne nouvelle dans le journal, mais il n'y avait aucune demande d'entrevue par la suite. Donc, à partir de ce moment-là, à quel moment est-ce qu'on donne de l'information pour avoir de l'exposition médiatique ou on donne de l'information pour avoir une vraie information?
Okay.
Et donc, il y a tout cet enjeu-là qui va jouer beaucoup. Et je pense que aussi, même le public est à risque parce qu'on va souvent aller voir les mauvaises nouvelles. On va vouloir se nourrir des mauvaises nouvelles parce que ça nous met en alerte. Comme ça nous met en alerte, ça libère de l'adrénaline, ça nous libère de la dopamine, d'accord? Même si c'est peut-être pas agréable quand on parle de la guerre en Ukraine, à Gaza, ou les grossièretés de Monsieur Trump, d'accord? Mais ça nous met en alerte et on peut aussi se nourrir de ce côté très sombre de l'humanité parce que ça nous libère de la dopamine malgré tout et donc on se laisse piéger. Donc c'est pas de la faute des médias, c'est l'ensemble de la société qui tourne beaucoup autour de ce thrill qui fait en sorte que on se nourrit l'un l'autre, en fait.
Ouais, je trouve ça intéressant, ton exemple de pendant la pandémie, on faisait affaire avec plein d'experts. Puis à un moment donné, la personne était expert dans un domaine, mais parfois on l'appelait pareil ou elle se pointait pareil pour dire « je suis disponible », puis elle devait sortir de son champ de compétences pour pouvoir continuer à être encore à la télévision. C'est ça qui fait... Donc, il allait chercher un rush d'adrénaline, tout simplement.
Oui, puis ou alors elle n'avait pas suffisamment de recul par rapport à elle-même pour savoir que Que justement, on n'a peut-être pas nécessairement un niveau d'expertise. Tu vois, une des choses que peu de gens savaient avant la pandémie, c'est toute mon implication politique. Moi, j'ai fait partie de Fort Jeunesse à l'époque, quand ça a été créé avec François Rebello, Martin Koskinen, Jean-François Roberge, pour ne citer que trois, ou Christine Fréchette. D'accord. Et donc, en fait, j'ai fait beaucoup de politique à l'époque et j'ai fait de la politique étudiante et ainsi de suite. Mais en même temps, c'est pas nécessairement sur ces sujets-là que depuis 2003 que j'étais médiatisé. Avant 2003, oui, mais pas après. Donc, en fait, il a fallu que j'explique parfois sur mon site internet, que je fasse des chroniques pour dire, hey, regardez tout ce que j'ai fait en politique, même si ça ne s'est pas vu. Parce que moi, je préfère être dans les coulisses que d'être comme expert. En tout cas, j'ai jamais eu envie de faire une carrière politique, mais je donne une expertise. Oui, donc, ça. Il a fallu que je la remette de l'avant pour dire, ben, quand je me prononce sur tel sujet ou tel sujet, ben, c'est quand même une réflexion qui date de plus de 30 ans, 40 ans, parce que j'ai commencé à faire de la politique quand j'avais 17 ans. Donc, là-dessus, je peux, mais en même temps, je ne me permettrai pas de me positionner sur l'avenir de Northvolt. Là, je suis un citoyen comme vous et moi qui se pose plein de questions, qui était peut-être plein d'espoir au moment où M. Fitzgibbon a proposé cet accord-là, mais je n'aurais pas pu me prononcer en tant que tel comme avis d'expert, alors que en santé mentale ou en éducation ou en santé tout court, ben, mon expertise est peut-être un peu plus solide là-dedans.
Au moins, nous, c'est clair, Yannick, on se prononce, puis tout le monde sait qu'on n'est pas expert, là, mais c'est pas mal l'une des seuls jobs où on peut avoir un micro pour dire juste nos opinions qui n'ont pas nécessairement toujours de sens. Je vais poser une question à la Yannick Marceau. Il veut pas, on travaille ensemble depuis assez longtemps pour qu'il y ait une certaine pollution. Est-ce que ça peut être genré, ça, ces risques-là? Est-ce qu'il y en a plus de risques chez la femme ou chez l'homme?
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ça appartient à tous les êtres humains. C'est vraiment un élément, mais il va y avoir un côté. Peut-être un peu plus masculin, c'est le guerrier, c'est le héros sans peur et sans reproche. C'est le chevalier qui est prêt à sauver la veuve et l'orphelin. Et donc, il y a un côté qui va peut-être être très à l'extérieur, très combatif, quand on parlait de M. Trudeau, il y a le côté très combatif qui peut ressortir. Mais on va avoir la même dynamique, mais peut-être un peu plus féminine, qui va être dans le contrôle. La volonté de contrôler les choses qui se passent, parce que si je ne contrôle pas, ça va aller mal. Et on s'entend qu'une maman qui devait gérer le garde-manger entre le 1er novembre et le 1er mai, où on a de la neige et on ne peut rien cultiver, il y a intérêt à avoir un grand contrôle de ce qui se passe. Quand les familles étaient nombreuses et que les mamans mettaient au monde 15, 16, 17 enfants, il y avait intérêt à avoir un minimum de contrôle sur la petite famille, surtout si le papa part à la trappe ou part en train de guérir contre les Anglais qui étaient en train de nous embêter. On s'entend, je me mets 200 ans en arrière. Non pas que les Anglais ne nous embêtent plus, mais que ça se fait différemment. Mais toujours est-il qu'il y a toujours la notion de contrôle. Donc, on pourrait très bien avoir une personne de pouvoir femme investie dans son rôle de directrice dans une institution ou de personnalité politique qui pourrait avoir justement un très, très grand contrôle. Et parfois, on a vu plusieurs fois des éléments où c'est quelque chose qu'on voit plus chez la junte féminine que la junte masculine. Ce sont les enjeux de harcèlement psychologique, d'accord? Où, tu sais, on a un risque au niveau du harcèlement sexuel chez les gars, où les gars n'acceptent pas, certains gars, on parle beaucoup d'un procès pour l'instant, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui défonce les portes ouvertes, c'est un homme qui a monté en fait une entreprise centrée sur le rire, d'accord? Eh bien, de qu'une femme se refuse à lui, il ne le comprend pas, donc il a besoin de conquérir comme un boc va essayer de conquérir une femelle dans son environnement. Donc, il doit être capable de pouvoir se réfréner en tant qu'être humain. Le boc n'y arrivera pas, mais nous, l'être humain, on a un préfrontal, c'est la partie du cerveau juste derrière notre front, qui devrait nous amener à nous calmer. Il faudrait mieux l'utiliser. Mais si tu es en survie ou si tu es tout le temps sur le trill de dopamine, tu n'as pas accès à cette zone-là. Donc, c'est là l'enjeu. Les enjeux narcissiques vont bloquer aussi le fonctionnement du préfrontal. Mais si je termine, en fait, le harcèlement psychologique, dans le monde du travail, on va le voir tout au moins dans le monde politique. On l'a vu chez un peu plus de femmes que d'hommes parce qu'elles sont exigeantes. Elles veulent ceci, elles veulent cela, elles veulent ceci. Elles manquent de temps parfois. Et la manière dont elles vont communiquer leurs attentes à l'équipe est peut-être qu'il y a un moment donné où le droit de gestion est transgressé et qu'on risque de tomber dans une forme de harcèlement psychologique. C'est une autre forme de violence qui n'est pas plus belle que la violence physique ou la violence sexuelle, mais ce sont les différents modes de fonctionnement parfois quand on veut asseoir notre pouvoir.
des gens qui peuvent avoir bon, justement ce fameux problème de narcissique, là, est-ce qu'ils ont une tendance à s'entourer de gens qui vont constamment être à leurs pieds, qui vont constamment les aduler, qui ne les remettront jamais en question, qui vont toujours être entourés de gens qui vont les élever plutôt que de s'élever en équipe, l'exemple?
Mais on peut avoir les deux. C'est-à-dire qu'il y a un bel exemple au niveau politique. Il y avait un groupe d'hommes d'affaires en Italie qui voulait reprendre le pouvoir ou tout au moins s'assurer d'avoir une certaine forme de pouvoir.
Avec Berlusconi?
C'est différent. Ouais. Comment?
C'était avec Berlusconi?
Exactement, avec Berlusconi. Donc, ils ont fait passer différents tests de la population pour mesurer quelle était la personnalité italienne potentiellement la plus attractive pour gagner les élections et éventuellement devenir chef d'État.
Ouais.
Et c'est Berlusconi qui a gagné la timbale. Donc là, on voit qu'il y a un groupe de gens qui ont contrôlé Berlusconi. Et donc, on s'entend que là, Berlusconi était pris à devoir faire des politiques qui convenait en fait un petit peu à ce personnage-là. On a la même chose avec Hitler. Hitler n'est pas arrivé tout seul que juste parce qu'il écrit Mein Kampf. Il y avait des industriels qui ont piloté Hitler pour arriver là où il en est.
Et le Goebbels, problème, c'est qui est souvent oublié, mais lui, il en a fait une thèse complète, là.
J'ai pas entendu le nom?
Goebbels, dans le temps, il est comme une tête très, très forte derrière Hitler qui a monté ce succès-là, là.
Tout à fait. Et le risque après, c'est qu'une fois que tu es au pouvoir, que tu l'aies obtenu de manière saine ou que tu l'aies obtenu de manière problématique, eh bien, c'est est-ce que si tu n'es pas prêt, en fait, à le perdre et que tu t'entoures uniquement, en fait, des gens qui pensent comme toi, qui ont quelque chose à gagner potentiellement ou qui ont très peur, en fait, de se faire éliminer ou de se faire tasser. Et là, on se retrouve avec un cercle de personnes qui pourraient être problématiques. Leur objectif, c'est la victoire. Et je dirais que des échos que j'ai du Parti conservateur canadien, on est un petit peu dans une dynamique de cet ordre-là, où il y a un environnement autour de M. Poilievre qui fait en sorte qu'il se détache de plus en plus de ce que la base conservatrice voudrait avoir. Donc, je ne dis pas que M. Poilievre n'est pas une bonne personne. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé, je n'en connais pas plus. Mais c'est certain qu'à l'intérieur même de son parti, il y a un malaise actuellement parce qu'il est beaucoup trop, adulé à l'intérieur. Je pense qu'il y a certains enjeux qui pourraient être comme ça aussi à Québec solidaire. Je ne sais pas dans quelle mesure Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas une garde rapprochée qui fait en sorte que, ça ne veut pas dire que les ambitions de Gabriel ne sont pas bonnes, ça veut juste dire que s'il n'écoute plus sa base ou à l'inverse qu'il écoute trop sa base, on peut avoir éventuellement des difficultés de pouvoir aller en avant et de se perdre en fait dans le processus de gestion du pouvoir.
Mais c'est super, comment dire, c'est sensible le leadership, surtout en politique. Pour avoir un bon leadership dans notre vie personnelle, ben, c'est un peu plus facile, tangible, d'explorer diverses facettes, puis juste d'être nous et autres. Mais en politique, malgré tout, il y a tellement de sphères que c'est... Moi, souvent, en onde avec Yannick, je parle de Trump, puis je dis, à la base, une des qualités que je donne à un politicien, c'est sa qualité de leadership. Je trouve que Trump divise plus qu'il rassemble. C'est mon opinion personnelle. Mais est-ce qu'il y a justement des bases importantes en termes de leadership à avoir en politique si on souhaite là, aller plus loin, être, élu, mais pouvoir être un bon politicien qui a marqué, par exemple, des générations?
Mais je pense qu'heureusement, on en a de temps en temps. Ils sont malheureusement peut-être moins connus, moins adulés. Ils n'ont pas l'ambition d'avoir une carrière. Donc, peut-être qu'ils ne se retrouveront pas nécessairement comme premier ministre. Moi, il y a une femme que j'ai toujours admirée depuis mon enfance, c'est Simone Veil. Elle a été ministre de la Santé en France. Puis quand j'étais enfant, je jouais avec mes Legos, ben, je l'écoutais souvent, ses discours. À ce moment-là, on n'avait pas un accès très large, en fait, aux ondes radio, comme on l'a aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on avait, c'était les longues ondes. J'écoutais, en fait, la radio qui s'appelait RTL, qui est une radio de Paris, malgré son nom. Et Simone Veil, il y a d'ailleurs ceux qui s'intéressent, en fait, à ce personnage-là, je vous invite à aller louer, en fait, la cassette ou le regarder sur Internet, qui s'appelle Simone, parce que sa vie a été mise en image l'année dernière. Et c'est vraiment un personnage très intéressant, une belle image d'intégrité comme homme ou comme femme politique. Donc, mais ça demande quoi? Ben, ça demande en fait de l'altruisme, ça va demander de l'écoute, ça va demander de l'humanité. Il faut être capable aussi de prendre des décisions parce que si on est trop dans l'écoute ou trop dans l'humanité, on n'osera peut-être pas prendre des décisions. Donc, à un moment donné, il faut être capable de trancher pour prendre des décisions potentiellement impopulaires. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont là. Mais j'aurais envie de te raconter, Pascal, une anecdote. Quand j'étais adolescent, je pensais que la solution en politique, ce serait les scientifiques. Parce que l'image que j'avais des scientifiques, C'était des hommes et des femmes sérieux qui font la part des choses, qui analysent, qui étudient et qui peuvent proposer probablement quelque chose de plus noble que la plupart des personnes seraient capables de le faire.
Ouais, qui se remettent toujours en question aussi. Hein.
Normalement, oui. Ouais. Et j'ai bien dit normalement, oui. Mais j'aurais envie de dire deux choses. Premièrement, quand j'ai fait mes études scientifiques, j'ai commencé à douter de cette noblesse-là dans le monde scientifique parce qu'on est souvent dans une dynamique de publie ou périt. Donc, ça veut dire qu'on est dans une dynamique narcissique.
Extrêmement compétitive, oui.
Exactement, ce qui peut amener le scientifique à avoir des comportements problématiques et ne plus se poser suffisamment de questions. Pendant longtemps, on a eu très peu d'encadrement éthique. Il a fallu la fin des années 90, début des années 2000 pour que les premiers comités d'éthique apparaissent de manière à donner des cadres. Alors, il y avait des scientifiques qui l'avaient de nature, des scientifiques qui ne l'avaient pas.
Et les subventions, hein, Joël, les subventions aussi données. Il faut que ton parcours scientifique soit tellement clair, tu saches tellement où tu dois arriver pour être subventionné ou avoir de l'argent pour tes recherches que ça doit jouer aussi.
Tout à fait, mais je dirais que un exemple que j'aimais beaucoup, bon, je parle de temps en temps du modèle français parce que je suis un Européen, donc ce sont des personnages qui existaient quand moi j'étais enfant ou adolescent. Il y a Alain Bombard qui est le premier qui a traversé en fait l'Atlantique en solitaire, qui est un scientifique à la base et qui lui a été ministre pendant quelques semaines sous l'ère de Mitterrand II et qui s'est rendu compte qu'il pouvait pas faire grand chose comme ministre. Il pouvait juste éventuellement orienter un peu les choses, mais comme pouvoir, il ne l'avait pas beaucoup. Par contre, là où je remets en question complètement mon hypothèse de quand j'étais adolescent, c'est la pandémie. Quand on regarde comment les scientifiques se sont positionnés justement en oubliant tous les aspects éthiques des questions qui se posaient, éthique d'un point de vue immunologique, éthique d'un point de vue vaccinal, éthique d'un point de vue santé mentale de la population, et qu'ils restaient figés dans une certaine manière de voir les choses et à quel point on a essayer d'empêcher des scientifiques de se poser des questions publiquement, on se rend compte que le scientifique n'est pas moins à risque que monsieur, madame, tout le monde qui devient en fait un homme ou une femme de pouvoir. Parce que le pouvoir peut amener des choses extraordinaires dans notre société, mais peut aussi amener des choses très tristes, comme on le voit avec les différentes guerres un peu partout sur la planète.
Joël Monzé, on va faire une très courte pause. On va revenir tout de suite après. Je rappelle aux auditeurs qu'on est avec Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. On parle de plein de sujets. Puis Pascal Cévé qui a décidé de venir faire un tour dans Marceau Soir pour essayer de faire en sorte que cette émission-là soit meilleure. Oh. On fait une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir.
Boulevard 102.1.
Viens t'amuser à Gogonner Doudoune au quai de l'espace 400. Ours d'escalade géant. Symposium carnavalesque présenté par l'Épine Cloutier à Tos du 7 au 9 février. Dégustation animée avec chef de renommée les 8, 9, 15 et 16 février et bien plus. Navette Vidéotron gratuite entre le parc de la Francophonie, le quai Chouinard et l'espace 400. Viens jouer dehors tous les week-ends de janvier, les 1er et 2 février et durant le carnaval du 7 au 16 février. Entrée gratuite, activité payante. Gogonner et Doudoune, une production du Carnaval de Québec.
Chez Sport Expert et Atmosphère, les soldes d'hiver sont arrivés. Profitez de rabais allant jusqu'à 30% sur les manteaux, bottes et équipements d'hiver sélectionnés. Détail en magasin, Sport Expert d'ici.
C'est le retour des soupers à petit prix chez Normandin. Tous les jours dès 16h, pour seulement 10,99 $, savourez en salle à manger l'un des 5 repas incontournables de Normandin. Le combo pizza garnier et spaghetti, le wrap au poulet avec frites, la salade thaï, l'assiette burger smash bob ou le combo lasagne suprême et salade. 5 choix au prix vraiment spécial de 10,99 $. Dès 16h chez Normandin, on s'occupe du souper. Et ce, jusqu'au 16 février. Normandin, ça fait plaisir!
Toute l'équipe de Laval Volkswagen remercie sa clientèle pour l'année qui vient de se terminer. Les indices de satisfaction témoignent de votre confiance. En 2025, on poursuit le virage électrique. Venez voir le nouveau ID Buzz et le ID4. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Le Tonic Gym, une atmosphère unique à deux pas de l'Université Laval. En plus, le Tonic Gym a été refait à neuf. En 2025, mettez votre santé de l'avant avec les meilleurs coachs, le meilleur équipement dans le plus gros centre d'entraînement à Québec. Le Tonic Gym, la destination numéro un de l'entraînement à Québec.
Votre retraite vous préoccupe? Vous vivez des changements de vie importants, tels un nouvel emploi, une séparation ou le décès d'un proche? Vous vous demandez si vous utilisez toutes les façons de vous enrichir, de sauver de l'impôt, de protéger vos avoirs et de maximiser vos rendements? Je suis Marc-Antoine Reed, planificateur financier de Rage Against le matin à Boulevard. Enrichissez-vous en toute tranquillité et bénéficiez d'une deuxième opinion et d'un plan financier vivant en prenant contact avec nous dès aujourd'hui.
Équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion de patrimoine, Services financiers Group Investors Inc., cabinet de services financiers, 1-833, ton plan.
Les résolutions, c'est bien. Mais c'est pas facile de rester motivé ensuite. Pour ça, faut choisir le bon endroit. Venez donc essayer mon club. J'y suis bien depuis tellement longtemps.
Tennis, gym, spinning, workout, yoga, badminton, tout pour la famille au Club Avantage Multisport.
Le meilleur fromage en grains, c'est à la Fromagerie Victoria. Le meilleur prix pour les déjeuners, c'est à la Fromagerie Victoria. L'assiette complète avec un œuf à 8 et 18 ou le sandwich Victo au service au volant sauront combler vos matinées. Fromagerie Victoria, familiale depuis 75 ans.
C'est la vente pré-déménagement de Bus chaussures. Bottes d'hiver à crampons, un seul prix, 89 $. Espadrilles, chaussures, bottes, hommes et femmes, de 19 à 79 $. Dépêchez-vous, ça se termine jeudi le 9 janvier. 2197 Lyon Armel, ouvert de 10h à 17h.
Ta grande générosité à Noël t'oblige à te serrer la ceinture en janvier? Oricom a une solution pour toi. Change de fournisseur Internet, passe à Oricom. Tu pourras économiser gros et desserrer ta ceinture un peu, ça respire mieux. Avec Oricom, tu auras une connexion Internet 100% fibre rapide, fiable et surtout économique comme le 500 Mbps à seulement $44.95 par mois. Tu veux économiser toute l'année? Abonne-toi en ligne au oricom.ca. Tu ne le regretteras pas.
Transat présente un couple qui cherche comment échapper à la déprime de l'hiver.
Si on faisait du yoga chaud?
Trop chaud.
Si on allait à la piscine?
Trop froid.
Au spa?
Trop chaud, trop froid, ça me tente pas. Mais ça me tenterait peut-être de partir en voyage, par exemple.
Genre dans un endroit où il y a une piscine, un spa puis du yoga chaud?
Hey, bonne idée!
Bonne idée!
Durant le solde Adieu l'hiver de Transat, économisez jusqu'à 40% sur nos forfaits vers le sud. Visitez transat.com ou contactez votre conseiller Club Voyage. Des conditions s'appliquent. Air Transat, le voyage nous transporte.
Être connecté à tout et branché aux atouts, le quartier Mosaïque, c'est mon nouveau beat de vie. Borne de recharge, aire de travail équipée, resto café et bus à ma portée. Le quartier Mosaïque offre des condos locatifs branchés au cœur de Le Bourgneuf. Pour visiter, quartiermosaïque.com.
Les offres magiques arrivent tôt chez Ben et compagnie. Profitez de nos deux offres à chaque semaine, dont un repas à 10 $ au comptoir. Wrap, club sandwich, filet ou quart de poulet et même notre fameuse poutine. Téléchargez l'appli Ben et compagnie pour découvrir nos offres magiques jusqu'au 12 janvier 2025.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock. Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. Pascal CV, qui est là pour m'accompagner, pour être sûr et certain que je ne dise pas de niaiserie. On parlait des narcissiques tout à l'heure. Joël, je vais te poser une question très particulière. Comment on fait pour savoir qu'on n'est pas narcissique? Comment on fait pour savoir qu'on n'est pas psychopathe? Peux-tu nous définir les deux? Puis de se dire, ben, de nous dire une technique pour savoir comment on fait pour ne pas l'être, justement, narcissique puis un psychopathe?
Mais en fait, je dirais, dans les deux cas, il faut être capable de se voir aller. Si je n'arrive pas à me voir aller, je dois me poser des grandes questions. Il est temps que je prenne mon téléphone cellulaire, que j'appelle un psychothérapeute ou un psychologue pour aller faire une petite thérapie, parce que ça veut juste dire que je suis en survie. Et si je suis en survie, il y a plein de manières de la gérer, ma survie. Et parmi la gestion de survie, il peut y avoir des comportements narcissiques ou des comportements psychopathes. Au niveau du psychopathe, en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des personnes qui ont deux zones de leur cerveau qui ont été complètement détruites. Moi, je me suis intéressé à ces phénomènes-là à l'époque de Magnota, à l'époque du massacre des deux enfants par Monsieur Dutroux, où il y a plein de journalistes qui me demandaient « Mais comment se fait-il qu'on peut se rendre aussi loin dans l'horreur ?» Donc, j'ai plongé, comme je le fais souvent avant une entrevue, je plonge dans la littérature scientifique pour essayer de me faire une tête là-dessus. Et en fait, ce qu'on constate en fait, chez les personnes qui sont psychopathes, c'est que il y a deux zones de leur cerveau qui peuvent malheureusement être complètement détruites. La première, c'est les amygdales. On a des amygdales dans le fond de notre bouche, c'est une défense immunitaire, mais on a surtout une paire d'amygdales entre nos deux oreilles, et toutes nos mémoires qui nous permettent en fait d'identifier rapidement si on est en danger ou pas sont logées en fait dans les amygdales, et ça va déclencher tous nos mécanismes de défense. D'accord? Et en fait, quand les amygdales sont là, ben on peut avoir des peurs. On peut, par exemple, quand on prend la voiture et que les conditions météo ne sont pas géniales, les amygdales vont nous dire, attention, roule pas trop vite. Si on est avec notre enfant et on se promène au bord de la rue, on va tenir notre enfant par la main parce qu'on a peur qu'il ne se fasse frapper par une voiture, ne serait-ce qu'il aura envie de traverser parce qu'il a vu un clown de l'autre côté de la rue. D'accord? Donc, à ce moment-là, les amygdales nous amènent à avoir des comportements de protection. On s'auto-protège, d'accord, nous-mêmes, où on protège le collectif, l'environnement dans lequel on est, et en l'occurrence, nos enfants, nos amis, et ainsi de suite. Yannick, Pascal, c'est ce qui ferait en sorte que si Québec est attaqué par les Vikings, eh bien, on prendrait notre bouclier, notre glaive, et on essaierait coûte que coûte de défendre, en fait, la ville, au mépris de notre vie. On va essayer de défendre le collectif. Donc ça, les amygdales vont être là, et on va faire attention à essayer de protéger notre environnement ou les personnes qu'on aime. C'est une question de survie. L'autre zone qui est détruite, c'est dans une zone qu'on appelle l'orbitofrontale. Donc, c'est du côté de la tempe, en fait, à droite, orbitofrontale droite, où normalement, cette zone, les neurones qui sont là, ça permet d'avoir une résonance émotionnelle. Ça veut dire que si, Pascal, je te vois pleurer, d'accord, eh bien, cette zone-là va m'amener à vouloir prendre soin de toi, à vouloir voir pourquoi est-ce que tu pleures. Si je vois Yannick qui est en train de rire, cette zone-là peut m'amener à rire tout autant parce que Yannick est en train de rire. Donc, c'est une zone de résonance émotionnelle qui est très puissante, notamment chez une maman ou un papa qui ont un bébé, parce que quand le bébé ne va pas bien, cette zone-là va faire en sorte qu'on va vouloir protéger notre bébé, on va vouloir en prendre soin. C'est peut-être pas pour rien, elles sont plus présentes chez les femmes que chez les hommes, donc il y a beaucoup plus de femmes qui vont être portés à faire du caring dans l'enseignement, de la science infirmière et ainsi de suite. Et chez les psychopathes, ces deux zones-là sont mortes. Ce qui veut dire que ça explique pourquoi, par exemple, dans la plupart des films américains où on nous montre des psychopathes, ils préfèrent se faire tirer par la police que se retrouver en fait en prison et ne plus pouvoir continuer l'activité qu'ils aimaient, c'est-à-dire faire souffrir autrui. Et c'est ça le problème, c'est que si je n'ai pas la zone de résonance émotionnelle avec l'autre, je suis capable à ce moment-là de faire souffrir une personne. Je prends par exemple le personnage Mengele, qui est le médecin qui a fait des expériences atroces à l'époque des nazis. Eh bien, Mengele torturait du monde pour essayer de comprendre comment le monde fonctionnait. Il faisait des manipulations biologiques, physiologiques, sans aucune résonance émotionnelle pour les êtres humains, en fait, qui est en train de manipuler dans ces laboratoires. Donc, ces gens-là sont extrêmement dangereux.
Est-ce qu'il y a des fins renards qui sont psychopathes ou peu importe la disposition mentale, mais qui sont capables d'en faire une pièce de théâtre, de faire semblant d'avoir de l'empathie, de se montrer bienveillant envers les autres, mais officiellement, ils n'ont pas autant de résonance que d'autres, là?
Mais c'est le côté même fascinant, dans le sens que c'est quelque chose qui est plus documenté aux États-Unis qu'ailleurs. Mais par exemple, le nombre de femmes qui vont écrire à des tueurs en série. Et donc, quelque part, il y a un degré de fascination. T'es tantôt, quand je parlais de la femelle qui est attirée par le boc dans le bois, ben, on peut avoir ce genre de choses-là. Et lui, justement, cette personne-là, comme elle n'a aucune... envie de prendre soin de l'autre, elle peut tomber dans des comportements de manipulation extrêmes. Et de nouveau, je ne parle pas d'un enfant qui a un comportement téflon, d'accord, qui va se blinder, qui va donner l'impression qu'il n'est pas en résonance émotionnelle. Souvent, c'est une carapace qui s'est mise comme mécanisme de défense, parce qu'il ressent souvent tellement les émotions d'autrui qu'il préfère se protéger coûte que coûte. Et donc, un enfant téflon n'est pas nécessairement une personne qui est psychopathe, loin de là, surtout chez un enfant ou un adolescent. On se posera la question chez un adulte par après. Mais oui, cette personne-là a une capacité de séduire le monde et va être capable de passer par n'importe quel détour pour atteindre ses fins, alors que ce soit du pouvoir physique, du pouvoir sexuel ou du pouvoir psychologique ou politique, il va tout faire ou elle va tout faire pour atteindre ses objectifs parce qu'il n'en a rien à foutre ou elle n'en a rien à foutre d'autrui.
OK. Parce que moi, pendant la pandémie, Joël, j'animais une tribune libre le soir, puis j'accumulais toutes les douleurs des auditeurs par rapport à la pandémie, ce qu'ils vivaient, le stress et tout ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais du stress vicariant, là, pour, oui. Je pense qu'on l'appelle l'usure de compassion. Puis je sais pas, mais du jour au lendemain, Joël, la douleur des gens, j'étais plus capable de l'absorber. Fait que c'est comme si je passais à côté. Ça a pris un certain temps avant que je revienne à la normale, c'est-à-dire quand je voyais quelqu'un qui filait pas, ben là, j'allais la voir, alors que quand j'avais justement ce stress vicariant-là, l'usure de compassion, Il y a eu un bout où je me suis posé des questions par rapport à ce que je ressentais intérieurement. Je me disais, mais je suis mort intérieurement, je ressens plus rien. Là.
Mais c'est le côté téflon dont je parlais tantôt, c'est que c'est un mécanisme de défense pour nous protéger, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on a à faire. Et là où il faut faire attention quand on a une fatigue de compassion comme celle que tu décris, c'est d'en prendre conscience et éventuellement aller chercher de l'aide auprès d'une personne. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être un professionnel. Tantôt, je parlais de psychothérapie. Parfois, d'aller parler avec quelqu'un juste pour pouvoir arriver en fait à relâcher la pression, relâcher le mécanisme de défense et retrouver en fait une part d'humanité par rapport à laquelle on s'est protégé coûte que coûte.
C'est souvent les gens qui sont dans les soins de santé. Là, ce qu'on m'avait dit à l'époque, là, c'est les gens normalement qui sont dans les soins de santé, ils développent des épisodes de stress vicariant. Là.
Beaucoup de gens qui travaillent au sein de la protection de la jeunesse aussi. C'est difficile à chaque jour.
Oui, puis je pense aussi qu'il y a certains gestionnaires qui sont dans des ministères, qui tombent là-dedans, où ils sont conscients d'un paquet de problèmes sur le terrain, ils se sentent impuissants à pouvoir trouver des solutions ou des stratégies qui permettraient de solutionner la misère humaine. Et donc, à ce moment-là, ils se blindent complètement derrière des protocoles, derrière des décisions, derrière des formulaires, parce qu'ils ne sont plus capables d'endurer l'impact émotionnel. Et de nouveau, comme je disais tantôt, c'est un mécanisme de défense qui est tout à fait normal et légitime. Je te dirais que si on est en train de combattre les Vikings parce qu'ils sont en train d'attaquer Québec et qu'on a une fatigue de compassion, elle va nous aider à survivre. Parce que si on commence à avoir de la compassion pour le Viking, on n'osera plus lui couper la tête. Donc, il y a certains moments qui sont utiles.